Il y a des choses qui méritent être fêtées. Quand il y a un mariage, en fait, jusque tard la nuit parfois. Et certainement la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est une raison de fêter. Une seconde. Je vous invite à prendre vos Bibles et trouver avec moi le psaume 2. Le psaume 2, le deuxième psaume, il y en a 150. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi ce psaume, le jour où nous fêtons la résurrection du Seigneur Jésus. Ce psaume a été écrit des centaines d'années avant sa naissance même. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur sa résurrection? Bien, j'espère que nous allons mieux apprécier ce psaume en le lisant ensemble. Il est attribué à David en Actes chapitre 4, et ce psaume, qui est une poésie, se divise très naturellement en quatre strophes. Vous pouvez le voir dans vos Bibles, parce que chaque strophe comprenne trois versets. Donc si vous mettez une ligne entre... Après le verset 3, le verset 6 et 9, vous allez avoir déjà la division de ce psaume en quatre strophes. Et dans chacune de ces strophes, il y a une autre voix qui parle. Et en lisant, je vous demande de tenter vous-même à identifier ces voix qui parlent dans ce psaume. La première strophe termine avec une citation. Mais le narrateur introduit la citation avec des détails qui nous aidera à identifier la voix qui parle à la fin de la strophe. Lisons-la. Le psaume 2, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» Et voici la citation. « Brisant leurs liens. » « Délivrons-nous de leur chaîne. » Maintenant, la deuxième strophe. Celle-ci aussi termine avec une citation. En fait, les versets 3 et les versets 6 nous donnent deux voix, vous verrez, très différentes qui parlent. Et pour savoir qui parle dans cette strophe, écoutons l'introduction du narrateur au verset 4. « Celui qui siège dans les cieux » rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Et voici la citation. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et maintenant la troisième strophe. Vous noterez que cette strophe commence tout de suite avec une citation. Il n'y a pas d'introduction de la part du narrateur, mais si vous écoutez bien, vous verrez qu'il parle, car celui qui parle cite un autre qui parle de lui. C'est intéressant. C'est une double citation, si vous voulez. La citation comprend elle-même une citation. Regardez le verset 7. Quelqu'un parle et dit, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Alors, est-ce que vous avez pu jusqu'ici identifier ces voix? Et maintenant, la dernière strophe, et encore une voix qui parle. Elle parle avec autorité. Elle menace. Mais elle termine avec une note de grâce. Écoutez la voix, verset 10. « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Voici la parole de Dieu. Alors avant de revenir sur la première strophe, nous devons identifier le personnage principal de ce psaume qui se trouve en fait dans toutes les quatre strophes. Dans la première strophe, notez le verset 2, « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel ?» Et maintenant, notez bien le personnage contre qui les rois de la terre se révoltent. Contre l'Éternel et contre qui ? Son roi. Alors, dans la deuxième strophe, quand l'Éternel parle, il fait mention de ce même personnage. Regardez le verset 6, il dit, c'est moi qui ai roi, mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Ce roi de l'Éternel est aussi le roi de l'Éternel. Et la troisième strophe est en entier une citation de ce personnage. Il dit, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, donc loin de l'Éternel, et le roi choisi de l'Éternel, et ici il est le fils de l'Éternel. Et la voix de la dernière strophe parle encore de lui quand elle dit, verset 12, baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite, ou tout à la fin, heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors revenons à la fin du verset 2, où il dit que les rois et les princes du monde se soulèvent contre l'Éternel et contre son oint. Alors je vous dis d'emblée que le mot oint est le mot hébreu Mashiach, d'où vient notre mot français quoi ? Messie, Messie. Le mot Messie et le mot oint sont exactement le même mot. Et dans nos Bibles françaises, au lieu de traduire à chaque fois le mot Mashiach et de le rendre loin, on a francisé, si vous voulez, ce mot hébreu, on a créé un nouveau mot, le mot Messie. Mais quand ils ont traduit l'Ancien Testament en grec, et ceci même avant la naissance de Jésus-Christ, quand ils arrivaient à ce mot, ils n'ont pas pris le mot hébreu pour créer un nouveau mot grec, ils ont carrément traduit le mot « oint » en grec. Et ça leur a donné, à la place donc, de l'hébreu « Messiah », ils mettaient le grec « Christus », qui veut dire aussi « loin ». Et c'est pour cela que nous avons dans nos Bibles françaises trois mots, en fait, pour exactement la même chose. Le mot « Messie » que nous avons emprunté de l'hébreu, le mot « Christ » que nous avons emprunté de la langue grecque, et le mot « oint » qui est la traduction littérale du mot. Et je suggère, si vous avez la place, d'entourer le mot « oint » au verset 3 et de mettre dans la marge « Messie ». Comme ça, chaque fois que vous lisez ce psaume et vous voyez « loin » contre son « loin », vous allez savoir que dans l'hébreu, ça dit « contre son Messie ». Ou, si vous regardez la traduction grecque de l'Ancien Testament, ça dirait « contre son Christ ». Et donc, on doit se poser mais qui, la question « qui est ce « oint » ? Qui est ce « Messie » ? Qui est ce « Christ » ? Car dans l'Ancien Testament, il y avait en fait plusieurs messies, plusieurs Christ, des petits Christ si vous voulez, des rois qui étaient rois pour régner, des prêtres qui étaient rois pour offrir des sacrifices devant Dieu, des prophètes. Ésaïe parle du prophète qui est loin de l'Éternel pour annoncer sa parole. Mais selon les versets 7 et le verset 12, ce oint de Dieu, ce Messie est le Fils de Dieu. Il dit, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils. Verset 12, baiser le Fils. Et ce Messie n'est pas seulement le Fils de l'Éternel, mais le roi établi par l'Éternel. C'est moi qui ai oint mon roi, verset 6. Et c'est un roi qui, à qui celui qui siège dans les cieux donne, selon verset 8, les extrémités de la terre pour possession. Il a tout. C'est un roi donc devant qui tous les autres rois de la terre et tous les juges de la terre doivent se soumettre et envers qui ils doivent être loyaux. Nous verrons ça à la fin de ce psaume. Et donc nous pouvons dire qu'il est le roi des rois, ce Messie. C'est un psaume qui parle d'une façon prophétique du Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez, quand on dit Jésus-Christ, on dit Jésus loin, Jésus le Messie, Jésus le Christ. Et n'est-ce pas beau de pouvoir ouvrir même les pages de notre Ancien Testament et savoir qu'elle parle de notre Seigneur et Sauveur, Jésus le Christ? Je trouve que c'est merveilleux. Et Jésus le Christ, ou Jésus le Messie, Jésus loin de Dieu, est le personnage principal de ce psaume. C'est un psaume messianique, c'est un psaume prophétique. Mais dans cette première strophe, c'est qui parle? Est-ce que vous l'avez trouvé? Regardez là encore au verset 1. Il dit que c'est les nations et les peuples. Au verset 2, ces peuples sont accompagnés par les rois de la terre et les princes en ligue ensemble. C'est donc le monde qui parle. Les nations avec leurs rois. Les peuples avec leur gouvernement. Vous êtes d'accord avec moi pour cette première strophe? Et quand on arrive au verset 3 et on lit « Brisant leurs liens, délivrant-nous de leurs chaînes », on sait bien qui parle ici. C'est le monde qui parle dans la première strophe. On donne la voix au monde. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son loin, brisant leurs liens, délivrant-nous de leurs chaînes? Il y a dans ces versets un tumulte, verset 1, des rois qui se soulèvent et qui disent, verset 3, brisant leurs liens, c'est-à-dire les liens de l'Éternel et de son loin, de son Messie. Ça, c'est le langage de la révolte, c'est le langage de la guerre. Contre l'Éternel, contre son loin. Et il y a une vérité dans chaque verset que nous voulons souligner. Prenons d'abord le troisième verset. On va les prendre 1, 2 et 3, mais à l'inverse. Qu'est-ce que vous voyez par rapport au verset 3? Qu'est-ce que ça nous dit? Brisant leurs liens, délivrant-nous de leurs chaînes. Moi, je crois que ça nous donne le désir fondamental du monde. Quand il s'exprime, il veut se libérer des chaînes de Dieu. Leur désir fondamental, c'est l'indépendance de Dieu. Vous savez, le désir d'indépendance se manifeste depuis le plus jeune âge. Mais il se montre aussi dans les plus hauts rangs des gouvernements. Un gouvernement le trouve facile d'imposer ses lois sur ses citoyens. Mais il refuse que les lois de Dieu soient imposées sur lui. Prenez n'importe quel gouvernement du monde et demandez-leur de se soumettre aux lois de Dieu. Vous verrez une résistance terrible. Que ce soit la redéfinition du mariage ou la redéfinition des genres masculins, féminins, ce n'est pas autre que les gouvernements qui continuent à vouloir se délibérer des chaînes de la loi de Dieu. C'est à Diderot qu'on attribue la citation suivante. Il a dit, enfin, on dit qu'il a dit en tout cas que quand le dernier des rois sera pendu avec les boyaux du dernier prêtre, le genre humain pourra espérer être heureux. Plus de rois, plus de prêtres, plus de gouvernement, plus de religion. Ça sera la liberté. Et j'ai trouvé un test sur Internet pour évaluer ses compétences et analyser sa personnalité pour les jeunes qui cherchent un travail. Et ça donne des questions auxquelles le jeune doit répondre, telles que: « Je suis curieux intellectuellement. J'aime la nouveauté. Je sais défendre mon point de vue. Je sais transmettre mes idées. Je prends facilement des décisions. Je suis ouvert aux suggestions des autres. Et il faut s'évaluer à chaque fois pour un peu découvrir qui nous sommes. Alors j'ai un test pour évaluer votre positionnement par rapport au monde et à Dieu. Et je vous demande de prendre ce test personnellement, d'y réfléchir, même les jeunes qui sont là. Notez si vous êtes, dans votre esprit, plutôt en accord ou en désaccord avec ces phrases. J'aime bien l'idée que le reste de ma vie sera gouverné par la loi de Dieu. Trouvez-vous plutôt en accord avec cela ou en désaccord? Voici une autre question. Je trouve que le joug que le Christ m'impose est doux et que le fardeau que la Bible impose sur ma vie est léger. Êtes-vous d'accord ou en désaccord? Voici une autre question. J'estime les paroles de Dieu plus agréables que les plaisirs du monde. Voici une autre question. Je préfère plaire à Dieu que d'avoir beaucoup d'argent. Ou celle-ci, je désire toujours soumettre ma volonté à celle de Dieu. Ou une dernière, je crois sincèrement que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Alors, si vous êtes en accord avec ces évaluations, ces phrases, ça c'est que quelque chose de surnaturel s'est produit en vous. On n'est pas né comme ça. Il faut être né de nouveau. Il faut être né d'en haut, né de l'esprit pour avoir ces sentiments. Et si vous dites, c'est pas trop moi ça, c'est que vos sympathies sont plutôt avec le monde qui crie dans le verset 3, brisant les liens de Dieu. Vous êtes dans votre cœur, l'extérieur, ça n'importe pas ici, mais dans votre cœur, vous vous positionnez avec le monde. S'il vous plaît, ne vous leurrez pas, le ciel n'est pas une démocratie. C'est une monarchie et le roi est déjà choisi. On peut tous aller au ciel, mais pas autant en tant que roi. Le dernier chapitre de la Bible dit ceci, Apocalypse 21, « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de la vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Alors, est-ce que vous voulez une vie indépendante de Dieu? Soyez honnête avec vous-même. Au moins, soyez honnête avec vous-même et devant Dieu. Mais notez le verset 2. Qu'est-ce qu'on voit dans le verset 2? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Je crois que ce qui est souligné ici, c'est l'effort coordonné du monde. C'est une complicité dans la rébellion. Ils se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son roi. Et notez les deux verbes du verset. Ils se liguent ensemble pour se soulever contre l'Éternel et contre son roi. Vous voyez l'entente ici entre les princes et les rois pour faire, si vous voulez, bloc contre Dieu. Si on le résiste tous ensemble, on sera plus fort. Il pense. C'est, si vous voulez, les Nations Unies contre l'Éternel et contre Jésus-Christ. Un ennemi en commun crée des amitiés inattendues. Rien ne renforce plus l'amitié qu'un ennemi commun, dit le proverbe. Mais notez maintenant le premier verset et dites-moi ce qui est la vérité soulignée. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Nous avons vu leur profond désir se débarrasser de Dieu. Nous avons vu qu'ils ont fait des efforts prodigieux. Mais comment est-ce que ce verset catégorise tout cela? C'est un grand tumulte pour quoi? Pour rien. C'est des vaines pensées. Le mot traduit pensée dans le verset, c'est en fait un verbe. Et c'est le même verbe qui est trouvé dans le psaume 1, verset 2. Vous connaissez ce psaume peut-être? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui l'a, quel est le mot? Médite. Médite jour et nuit. C'est ça le même mot ici. Médite. C'est un verbe. Ces gens méditent aussi. Mais ce qui est souligné, en fait, ce n'est pas la vilainie ou la méchanceté de leur acte. Il aurait pu dire, comme Proverbe 24, 1 et 2 dit, « Ne porte pas envie aux hommes méchants, ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite, et c'est ce même mot, leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. » Mais dites-moi, quel est le caractère de leur méditation qui est souligné dans le psaume 2, verset 1? Ce n'est pas le fait que leur complot soit rebelle et criminel. Ça, c'est vrai. Ça, c'est souligné au verset 2 et 3. Mais quelle est la première chose qui frappe le psalmiste en pensant à tous ces complots? C'est qu'ils sont tous, quoi? Vains. Vous voyez ça? Ils sont vains. Pourquoi ces vaines méditations parmi les peuples? Pourquoi les peuples méditent-ils de vains projets? Ou comme dit le Darby, pourquoi méditent-ils la vanité? Ou une autre traduction, les peuples complotent, mais c'est pour rien. Ce qui est souligné dans ce premier verset, c'est la futilité, en fait, des machinations du monde. C'est un tumulte pour rien. Des machinations, c'est un ensemble d'intrigues, de menées déloyales, de secrets pour faire aboutir un complot. Donc on sent ça au verset 1. Il y a des machinations, des complots qui s'organisent, des ligues entre des princes, des rois. Mais le psaume commence avec ce mot « Pourquoi ?» Comme s'il s'étonne qu'on puisse espérer qu'un tel tumulte accomplisse quoi que ce soit. C'est tout en vain. Alors, nous avons ces trois choses à retenir. Un désir profond, verset 3. Un effort coordonné, verset 2. Mais une futilité totale. Ça, c'est le verset 1. Et avec tout cela en tête, je vous demande de trouver Actes chapitre 4, s'il vous plaît. Actes chapitre 4, pour voir comment les premiers chrétiens ont interprété ces versets. Actes chapitre 4, le verset 23, ça parle de Pierre et de Jean, qui avaient été arrêtés par les autorités juives. Ils avaient été mis en prison, ils avaient été questionnés, menacés, et puis finalement, après cette persécution, relâchés. Et acte 4, verset 23 dit, « Après avoir été relâchés, ils, donc c'est Pierre et Jean, ils allèrent vers les leurs. » Et les leurs, maintenant qu'on est en Christ, hein, c'est les chrétiens ici. « Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. » Verset 24, « Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire, ils prient maintenant, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, notez cela, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. » Et maintenant vient une citation de l'Ancien Testament. Connaissez-vous la source de cette citation? Regardez-la. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre qui? Son roi. Et maintenant, regardez ce qu'ils disent, verset 27. En effet, contre ton saint serviteur, qui? Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville. Alors, j'arrête juste un instant pour noter quelque chose d'important sur Hérode et Pilate. En Luc 23, versets 11 et 12, écoutez, ne cherchez pas, il dit « Hérode reçoit donc Jésus ». Hérode, c'est un roi, il n'est pas romain, mais il est quand même sous l'autorité des Romains. Donc il y a forcément des choses qui se passent mal entre Hérode et le gouvernement romain. Et Hérode, avec ses gardes, traita Jésus avec mépris. Après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Pilate représente Rome, n'est-ce pas? Il est le gouverneur romain. Et le verset 12 dit « Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. » Ils étaient toujours ennemis auparavant. Ils se détestaient l'un et l'autre. Et là arrive Jésus, et qu'est-ce qu'il fait? Il rend la paix entre Hérode et Pilate. Il se ligue contre eux. Sont loin. Un ennemi commun fait des amis inattendus. Alors revenons en acte 4, verset 27. Ce n'est pas seulement ces deux, c'est avec les nations et avec les peuples d'Israël. Alors nous avons vu ce désir de se débarrasser de Jésus, l'effort coordonné de groupes, très hétérogène. On voit tout cela ici, n'est-ce pas? Et je note en passant que la mort de Jésus a été orchestrée d'une telle façon que chaque partie a dû donner son aval pour que Jésus puisse mourir. Pilate, qui représente Rome, aurait pu dire non. Et s'il aurait eu le courage de dire non, Jésus n'aurait pas été crucifié. Puis il l'envoie à Hérode. Hérode aurait pu dire stop. S'il aurait eu le courage de dire stop, Jésus n'aurait pas été crucifié. Et finalement, et c'est chose vraiment incroyable, on demande à la foule de déclarer son désir par rapport à Jésus. Et à son tour de dire si Jésus doit être crucifié ou non. Et la foule aurait pu dire, ça suffit, stop, ne fais pas ça. Et Pilate l'aurait tout de suite obéi. Une chose est claire, tout le monde a choisi ensemble et d'une façon coordonnée de se débarrasser de loin de Dieu. Personne ne voulait de lui. Donc nous avons vu ce désir de se débarrasser de Jésus, l'effort coordonné des groupes très hétérogènes de le faire. Mais quelle est la vérité soulignée tout au début du psaume? Vous vous rappelez? C'est la futilité de leur machination, que tout cela c'est en vain. Vous vous rappelez de ça? Alors regardez le verset suivant, le verset 28, hein, acte 4, 28. Tout cela, ils se sont ligués ensemble, verset 28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. N'est-ce pas beau? Tout le monde contre l'Éternel, tout le monde contre son roi, et ils ne font que ce que sa main et son conseil avait arrêté d'avance. C'est de la vanité, tout ce tumulte. Et voilà pourquoi celui qui siège dans les cieux rit. Il se moque d'eux. Colossiens 2 dit que Jésus nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. C'est par la croix que nous sommes sauvés d'ici. Et là, sur la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire. Où ? À la croix. La croix était la victoire de Christ sur l'ennemi. Parce qu'il prend lui-même la punition qu'on méritait. C'est par la croix que Jésus a vaincu l'ennemi. Et c'est ici que je veux retourner maintenant au psaume 2. Au psaume 2 et voir, deuxièmement, Dieu qui parle. Donc d'abord, c'est les nations qui parlent ou le monde qui parle. Deuxième strophe, c'est Dieu qui parle. Et on peut le décrire comme une dérision divine. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et notez le singulier ici au verset 6. C'est un moi catégorique. Au lieu de dire simplement j'ai établi, il dit c'est moi qui ai établi. Il y a une emphase sur ce moi. C'est moi qui ai fait ça. Et le singulier est en contraste avec le pluriel des premiers versets. Oui, le verset 3, voilà, c'est brisant. On est tous ensemble. Brisant les liens. Et verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi. Vous voyez, c'est le gouverneur romain Pilate, le roi Hérode, les chefs religieux et politiques de la nation juive, en concert avec la foule, tous ensemble contre Jésus pour le mettre à mort. Mais, 3 jours plus tard, c'est Dieu et Dieu seul qui prend la parole et dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est lui d'une façon seule, bien sûr, et souveraine, qui va agir, et c'est lui qui aura le dernier mot. Hébreux 12 dit que Jésus, en échange, la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, vous voyez ça, on l'a vu, mais il s'est assis où ? À la droite du trône de Dieu. C'est moi qui ai mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et la réalité divine peut être très différente de la perspective humaine, il faut le savoir. Vendredi, on aurait cru que le monde avait réussi à briser les liens de l'Éternel et de son roi. Samedi, toute la journée, on restait convaincu que le monde, avec l'aide du prince des ténèbres, avait pu se délivrer finalement de ses chaînes divines. Mais ce qu'ils ignoraient tous, c'est que Dieu siégeait encore dans les cieux, que son royaume n'était pas affaibli, qu'il n'avait qu'accompli que ses desseins. Rira bien qui rira le dernier. Et dimanche matin, la mort elle-même a été renversée. Et le Fils est sorti de la tombe plus vivant que jamais. C'est comme si on entendait la voix de Dieu qui criait en riant, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Mais j'avance à la troisième strophe du psaume, et là c'est le fils qui parle. Le fils qui parle. Il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et le reste, c'est Jésus, c'est le fils qui cite le Père, en fait, en parlant de lui. Donc, il se remémore les promesses que le Père lui a faites. Et quelle est la réaction, donc, du fils à tout cela? On note son calme, son assurance. Ah, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Le Père lui avait dit cela avec une voix, vous savez, audible 2 fois, lors de son baptême. Sur le mont de transfiguration, ces mots exacts, tu es mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce qui est souligné, c'est sa confiance filiale, c'est-à-dire de fils dans son père. Il n'est pas troublé par ses nations. Il se remet à son père. Je sais ce que l'Éternel m'a dit. Il n'écoute pas les voix du monde qui lui vient de toutes parts. Non, il écoute, c'est comme s'il est sourd à ses voix, il entend ce que son père lui dit. Il a confiance en son Père, même en entrant dans la vallée de la mort. 1 Pierre 2, 23 nous dit que, injurié, Jésus ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais c'est ça qu'il faisait. Il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Ah, il me dit, moi, je me remets entre ce que l'Éternel m'a dit. Est-ce que nous pouvons vivre comme cela? Tout le monde est contre nous, mais nous, on n'entend que les promesses de Dieu. J'assure, ça va vous aider à avoir une meilleure semaine. Il n'y a pas de panique. Il ne perd jamais sa foi. Mais sur la croix même, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Mais que fait le Père pour son Fils? Dans cette situation, nous voyons que le Père lui donne même les extrémités de la terre. Cela nous fait penser au passage que nous avons vu tout à l'heure, que c'est Dieu qui l'a souverainement élevé et qui lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et là, on voit les extrémités de la terre ici. Ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais je veux juste m'arrêter sur la phrase au verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire? Je t'ai engendré aujourd'hui. Ça parle de quoi? On entend engendrer, on a l'idée de donner la vie. Mais est-ce que ça veut dire que le Père a donné vie à son fils? Alors, loin de nous la pensée. Parce que les trois membres du Trinité sont coéternels, ils sont égaux dans leur divinité. Le Fils a existé autant que le Père et autant que l'Esprit. Il n'y a pas un qui vient avant l'autre. Nous trouvons la réponse en Actes chapitre 13. Et donc nous revenons en Actes chapitre 13 pour lire le premier serment de l'apôtre Paul qui nous est donné en tout cas. Dans sa première mission, son premier voyage missionnaire, Actes 13, et il est dans la ville d'Antioche de Pisidie. Donc il est parti d'Antioche, une autre ville qui s'appelle Antioche. Il se trouve maintenant dans une ville, Antioche de Pisidie. Et il est en train de prêcher dans la synagogue juive. Et je commence au verset 26, acte 13, 26. C'est Paul qui parle, il dit, « Homme, frère, fils de la race d'Abraham, vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoi qu'ils n'avaient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit dans la loi, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. » Mais, il n'a pas fini. Surtout ne quittez pas avant la fin de ce message de Paul. Hein. Mais, et notez maintenant sur quoi Paul va insister pendant six versets, en s'appuyant sur trois citations de l'Ancien Testament, trois citations différentes. Mais Dieu l'a quoi? Ressuscité des morts. Il est apparu, et maintenant il parle de la résurrection, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Regardez bien ces mots. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous en ressuscitant Jésus. Donc, quelle était la promesse faite à nos pères? Qu'il allait ressusciter le Messie. Ah oui, Dieu a fait cette promesse. Et voici maintenant le premier passage auquel il fait appel. ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voyez, les promesses faites à nos pères, Dieu l'a accompli en ressuscitant Jésus, comme le psaume 2 dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est vrai, engendré à cette idée de donner vie, mais de quoi parle-t-il? Il donne la vie de la résurrection. Il parle ici de la résurrection de Jésus-Christ et continue dans cette même veine, 34, qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, et maintenant il cite Ésaïe 55, verset 3, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs, et il cite maintenant le psaume 16, verset 10, « Tu ne permettras pas à que ton saint voie la corruption. » Même son corps n'a pas vu la corruption dans la tombe. Donc, selon Acte 13, verset 33, quand il dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », de quoi parle-t-il? Il parle de la résurrection. Et je suggère qu'à côté du psaume 2, verset 7, vous pouvez mettre dans la marge Acte 13, 33. Et puis, si vous avez la place, vous pouvez mettre la résurrection. Je t'ai engendré aujourd'hui, c'est la résurrection. Donc suivez la trame de ce psaume. Première strophe, là on va arriver après à la dernière strophe, mais la première strophe, un grand tumulte des nations, mais une futilité à leurs efforts. Deuxième strophe, la réaction de Dieu le Père, divine dérision, dérision divine. Troisième strophe, la réaction du Fils. Confiance en son Père qui le ressuscitera et qui lui donnera les extrémités de la terre. Et maintenant, la dernière strophe. Trouvez là avec moi le psaume 2, verset 10. La dernière strophe. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. C'est l'application, n'est-ce pas? Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. C'est qui parle ici? On peut dire, c'est le narrateur. Et ceci est vrai, c'est le narrateur qui parle. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas Dieu le Père, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, en parlant du Père, servez l'Éternel avec crainte. Il parle de Dieu le Père. Ce n'est pas non plus Dieu le Fils, car il dit, verset 12, baisez le Fils, troisième personne, de peur qu'il ne s'irrite. Il parle du Père, troisième personne, il parle du Fils, troisième personne. Mais c'est quelqu'un qui s'adresse avec autorité au roi et au juge de la terre. C'est quelqu'un qui assume le rôle de celui qui doit les convaincre du péché, de la justice et du jugement. Et or, Jean 16, versets 8 à 11, dit que c'est le Saint-Esprit qui a ce rôle. Par ailleurs, on a vu en Acte 4, verset 25, que la citation de ce psaume est introduite avec ces mots. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Ils reconnaissent que c'est le Saint-Esprit qui parlait à travers même David. Nous avons donc dans la première strophe la voix du monde, la deuxième strophe la voix du Père, troisième strophe la voix du Fils, et la quatrième strophe, sachant que le rôle du Saint-Esprit dans l'inspiration de la Bible, nous pouvons dire que c'est la voix du Saint-Esprit. C'est un psaume donc trinitaire. Acte 4, 25 le rend très clair quand ils disent à Dieu le Père, donc ils prient à Dieu le Père, c'est toi qui as dit ces choses par Dieu le Saint-Esprit concernant ton Fils, Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit parle. Et qu'est-ce qu'il donne? Il donne un ultimatum. Dans le sens que c'est un acte par lequel Dieu contraint les rois, et nous tous d'ailleurs, d'accepter ses conditions et dont le refus entraînerait l'ouverture des hostilités. Donc, c'est pas discuté ici, c'est ultimatum. Mais c'est gracieux car c'est adressé à ces mêmes rois qui tentaient de le détruire et il leur parle et il leur parle avec grâce. Et vous êtes tous, du plus jeune au plus vieux, devant ce même ultimatum. Vous ne pouvez pas l'ignorer, mes amis. Vous ne pouvez pas plaider ignorance. Vous ne pouvez pas ne pas prendre position. C'est pour cela qu'il y a une introduction donnée à l'ultimatum. Avant de nous présenter les conditions qu'il faudra soit accepter, soit rejeter, parce qu'on ne peut pas le négocier, il dit ceci. Avant de lire, il dit ceci. Il dit, regardez verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Vous sentez l'importance? C'est comme si le Saint-Esprit nous dit, attention, je vais dire quelque chose, mais s'il vous plaît, ne prenez pas ces choses à la légère. Conduisez-vous face à ce que je vais dire avec sagesse. Ici, le parallélisme de la poésie hébreu est très suggestif parce que l'idée de conduisez-vous avec sagesse est mise en parallèle avec quoi? Recevez instruction. Cela veut dire que pour se conduire avec sagesse, il faut faire quoi? Il faut recevoir l'instruction. On n'est pas sage en se confiant sur nos propres pensées. Pour être sage, il faut recevoir les instructions que nous donne la parole de Dieu. Donc je vous supplie, approchez cet ultimatum avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de sagesse, en recevant maintenant l'instruction de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit donc au verset 11? Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Vous devez le faire. Il n'y a pas de choix. Dieu peut se moquer de l'homme, mais l'homme ne peut pas se moquer de Dieu. Et la joie ici n'est pas exclue, on voit, réjouissez-vous, mais la crainte de Dieu est toujours de mise. Servez l'Éternel avec crainte, ça c'est compréhensible, servez l'Éternel avec crainte. Bon, Dieu, il faut le servir. Mais quelle doit être l'attitude des rois et des juges de la terre face au Fils de Dieu, au roi établi par Dieu? Qu'est-ce qu'il dit au verset 12? Baisez qui? Le Fils. Baiser le Fils. On parle ici du Messie, du Fils de Dieu, du roi établi par Dieu sur tous les autres rois. Et on voit qu'il devient un peu la pierre de touche contre laquelle est déterminé le sort de chaque individu. Il dit, venez baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Donc voici une possibilité. Aujourd'hui, vous refusez de baiser sa main en signe de soumission, d'amitié et d'amour. Voici sans doute ce qu'il veut dire par baiser le Fils. Le Fils, c'est le roi. Donc on est devant un roi ici. On va baiser la main du roi. Et quand on s'approche du roi pour baiser sa main, c'est un signe de paix. On vient en paix. C'est aussi un signe d'amitié. Mais c'est aussi un signe de soumission. Parce qu'on se met et on baise la main. On ne lui donne pas la main pour qu'il nous baise la main. Non, on prend sa main. On s'incline pour baiser sa main. Voilà ce qui a rendu l'acte de Judas si odieux. Odieux, c'est qu'il a trahi son maître avec ce geste. Un baiser. Et voici donc une possibilité. Vous refusez de baiser la main du Fils en signe de soumission, d'amitié, d'amour. Vous vous positionnez donc en rébellion contre lui. Si telle est votre posture envers ce roi, la colère du Fils va s'enflammer contre vous et vous allez périr dans votre voie. Dans votre voie. Apocalypse 6, verset 15 dit ceci. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers, dans les montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Quelle image? Colère de l'agneau, du Fils. Sa colère, mes amis, est prompte à s'enflammer. Mais voici une autre possibilité bien meilleure. Notez la toute dernière ligne du psaume. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et le lui, c'est qui? Lui, c'est le Fils. C'est le Fils de Dieu, le roi établi par Dieu sur tous les autres rois, le juge établi par Dieu pour juger tous les autres juges. C'est le roi des rois, le juge des juges. Et je vous encourage d'entourer le dernier mot du psaume, le « lui », et entourer aussi le mot « fils » au début du verset 12, puis de les relier comme ça. Vous verrez visuellement quand il dit « heureux tous ceux qui se confient en lui ». Lui, c'est qui ? Le Fils. Le Fils. Voyez-vous que le seul espoir de se protéger de la colère du Fils, s'il vient de parler, sa colère est franche à s'enflammer, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On peut dire « au rocher, tombez-nous, cachez-nous devant sa face ». Non, lui, il dit, ça ne va pas vous aider, ça. La seule protection contre la colère du Fils, c'est de le baiser et de se confier en lui. C'est-à-dire, on se protège du Fils en courant vers le Fils. En allant vers lui, en signe de soumission. Quant à ce que la bataille s'arrête, c'est une des parti, finalement, lève le drapeau blanc et dit, on arrive. On dépose nos armes, on sort, les mains levées, et la bataille est terminée. Parce qu'ils s'approchent maintenant de leurs ennemis, mais pas de n'importe quelle façon. Comment se protéger de la colère du Fils ? C'est de déposer ses armes, c'est de lever ses mains et de s'approcher de lui. Pour se donner à lui. Pierre a dit en acte 4, verset 12, c'est en lui seul, Jésus, que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Si vous voulez le salut, venez à ce roi que Dieu a établi, ce Fils qu'il a engendré dans la résurrection. Et vous aurez la vie éternelle. Prions. Oui, Jésus est ressuscité. Nous le croyons. Nous te remercions, Père et Saint-Esprit, pour votre part dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous prions qu'il soit glorifié parmi nous. Amen.